ces peuples de chansons.
Laisser parler notre frère Philippe Navez qui revient. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire du Kenya. Qui revient de Guinée. Je crois qu'on va être un jour obligé d'aller au Kenya, c'est pas possible ça. Et voilà, que le Seigneur le bénisse, il va vous raconter un peu ce qu'il a fait. Il ne peut pas raconter tout ce qu'il a fait parce qu'il faudrait un mois. Hein, parce qu'il a vécu un mois là-bas. Et on est tout content de le retrouver. On a déjà fait la fête plusieurs fois. On va encore refaire la fête tout à l'heure. On est content. Et pour le moment, on lui laisse la parole. Merci Philippe.
Merci. La vie est plus ou moins courte. Surtout que, en tout cas pour moi, elle devait s'arrêter à 25 ans. J'ai 67 ans. Je m'appelle Philippe, et c'est un chrétien, Luigi, qui m'a ouvert la porte, le chemin des promesses de Dieu. Et c'est le 7 août 1978, c'est à cette date que ma vie a profondément changé, mais profondément. À partir du moment où j'ai commencé à croire que Jésus... ce que Jésus disait de moi. Il croyait en moi. Jésus croyait en moi. J'ai appris ça. Il comptait sur moi. Et il avait même fait l'acte de mourir à ma place pour que je puisse être sauvé. Ça, c'est... quand j'ai découvert cela, j'ai découvert que ce n'était pas une religion. J'ai appris que Jésus avait tout fait pour que je sois sauvé. Il avait tout fait pour que je sois guéri de mes maux. J'étais un drogué. Et j'étais drôlement esquinté. Et il m'a sauvé. Il m'a guéri. Et j'ai appris pourquoi il était mort à ma place. J'ai appris pourquoi il voulait que je sois sauvé. Et ce qu'il avait fait à ma place. C'était afin, tout simplement, que je n'ai plus rien à faire que de lui faire confiance. Que je n'ai plus à faire un effort, à faire quelque chose pour être sauvé, pour être libéré de tous mes péchés, de tout ce que j'avais fait qui était contraire à la vie. Et aussi... j'avais plus rien à faire que de lui faire confiance pour être guéri de mes maladies, guéri de tout ce qui me hantait, tout ce qui m'avait détruit totalement, presque totalement. Dieu est le plus grand des médecins et il veut vous guérir. Il veut guérir tous ceux qui s'approchent de lui. Tous ceux qui lui font confiance. Ça, c'est... j'en suis certain, même. Je ne le crois pas. Je le sais. Je l'ai vécu. Je vis. Je vis encore. Et ça peut paraître difficile quand on voit la situation actuelle, avec toutes ces maladies, toutes ces souffrances, tous ces innocents qui souffrent, qui sont dans le malheur. Ça peut paraître difficile aussi quand on a une connaissance religieuse, traditionnelle. Ça paraît très difficile de concevoir cela. Moi, j'avais jamais cru en une religion, je n'y crois pas. Je ne crois pas en la religion, je ne peux pas croire ça. Et ce que j'ai découvert, c'est une personne, Jésus le Christ. C'est une personne, même plus qu'une personne. Une personne qui m'aimait et qui était divin, qui était Dieu. J'ai découvert que depuis qu'il est ressuscité, tous ceux qui le croient et qui mettent sa confiance en lui, il leur accorde le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est incroyable. C'est une possibilité qui s'offre à tous, à tout le monde, à vous. Elle s'est offerte à moi. Moi qui étais un menteur, un égoïste de première. Je ne savais même pas où j'allais. J'allais n'importe où. Je faisais n'importe quoi. Ce qui me passait par la tête. J'étais arrogant, orgueilleux. Et là, j'ai découvert la personne que j'étais, moi. Et j'avais vraiment honte. Ce n'est pas ce que je voulais être. Au plus profond de moi, je voulais être quelqu'un de bien. Je voulais même être quelqu'un qui apporte aux autres, qui est de la sagesse. Je rêvais de ça. C'était pour moi la plus belle des choses. Et je découvrais que j'étais vraiment un minable. Je voulais que tout mon être change, que Jésus mette devant moi la vie alors que j'étais un condamné à mort. C'est ce que j'ai commencé à croire quand j'ai commencé à le connaître. Quelques temps après, j'ai rencontré Michel Janton. Il enseignait le rétablissement de toutes choses, dont parlent les actes 3 à 21. Il enseigne l'évangile, qu'il pratique, et que Jésus enseigne, ainsi que ses disciples et les apôtres. C'est l'évangile du départ, l'évangile des Saintes Écritures. Et maintenant, ça fait 38 ans. Environ. Je me suis engagé à remplir fidèlement mes fonctions de membre du corps de Christ dans la communauté de Michel Janton. Je me suis engagé aussi à l'extérieur de la communauté, dans la mesure de mes moyens, de sauvegarder, de protéger et de défendre la Sainte Bible. Et voilà qu'il y a un mois, je suis parti en Guinée, missionné en tant que bénévole par Emmaüs Cahors, une association à laquelle je suis fier et actif dans cette association. Et je suis parti avec Christophe, un autre bénévole de l'association. Et ensemble, nous étions missionnés pour construire des écoles, une école, dans un petit village, en Mdalaï. Certainement, ça ne vous dit rien. Il doit y avoir 150 habitants. Avec les villages aux alentours, ils sont 600, 700 habitants. C'est dans la profonde Guinée, dans la forêt, dans les montagnes. Pas d'accès aux véhicules. Mais Emmaüs Cahors nous y a envoyé pour construire donc une école de 300 élèves qui étaient inscrits. Et pour réparer une dizaine de forages en panne. Il y a beaucoup de forages, mais ils sont en panne. Et besoin d'être formé pour les réparer. Et le reportage dont j'ai été mandaté de faire, c'était pour mieux comprendre la situation sur place, mieux répondre aux besoins être au plus près des besoins. Parce que le but de Emmaüs est de répondre aux besoins, de prendre soin de son semblable. Et c'est une chose merveilleuse que de faire cela. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, eh bien, il était normal pour moi que je dise qui est Jésus, qu'est-ce qu'il dit qu'il est, qu'est-ce qu'il dit qu'il fait, et il le fait. Qu'est-ce qu'il dit que nous sommes, nous, les terriens, et qu'est-ce qu'il dit que nous pouvons faire. Et voilà toutes ces promesses qui sont dans la parole de Dieu, elles sont extraordinaires, mais comment les communiquer à un peuple qui comprend à peine le français, qu'un français très basique. J'avais beau avoir vu des centaines de miracles concernant le salut ou de guérison, j'ai eu beau entendre des milliers de messages de la part de Michel Janton, de T.L. Osborne, de Raphaël Duval, de William Rahm et de bien d'autres. Je les ai crus, ces messages. Je les ai même pratiqués autant qu'il était possible pour moi, en me basant sur les Saintes Écritures. Mais je me trouvais tellement désorienté face aux Guinéens. C'est terrible de se trouver dans une telle situation. Et j'étais triste. La barrière de la langue. Je me sentais désappointé devant une responsabilité qui était la mienne en tant que témoin de Jésus le Christ, face à tous ces gens. Alors, j'ai prié, demandant à Dieu de me conduire dans cette situation. J'ai ouvert ma Bible, j'ai rempli mon cœur des merveilleuses promesses de Dieu sur son salut, sur la santé, sur la prospérité, c'est tellement des choses dont ils ont besoin. Et une fois de plus, j'ai pu constater à quel point Jésus est fidèle à sa parole. Ce jour-là, je montrais à ce jeune homme, Diallo Barry, et qui participait aux travaux de construction de l'école, quelques techniques pour peindre les classes. Je lui montrais cela et pendant la pause, il me demanda la permission de retourner dans son village à quelques kilomètres. Je lui demandais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu veux rentrer. Et il me dit, ma maman, elle souffre tellement. Alors je lui ai demandé des explications. J'ai fini par comprendre qu'elle avait de l'arthrose, qu'elle avait du mal à marcher. Alors je lui ai proposé de l'accompagner pour rencontrer sa maman et pour prier pour elle. Excusez-moi. C'est des moments tellement émouvants. Il était étonné, émerveillé de voir ma réaction, de vouloir venir voir sa maman. Et on est parti, nous ferons une demi-heure de marche dans la montagne, dans la forêt. Voilà, on a atteint son village. C'est comme par magie, il y avait une vingtaine de femmes, d'enfants, qui m'ont accueilli avec des cris de joie. Et j'ai rencontré cette maman d'environ 35 ans. Jeune maman. Et effectivement, elle avait beaucoup de mal à marcher. Le fils a expliqué la situation à sa maman. Il me traduisait comme il pouvait. Et j'ai dit à cette maman. Bien sûr, c'est un village musulman. Ce sont des gens qui vivent dans des maisons qui sont des cases en terre, il n'y a rien. Il y a juste l'eau que Christophe, l'année passée, leur a amenée dans ce village. Ils sont tellement reconnaissants. Et je lui dis, il faut savoir que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui par qui nous pourrons communiquer avec Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que tous les hommes, que toutes les femmes, de tout âge, que tous les enfants soient guéris de toutes leurs maladies. Ça, c'est la volonté de Dieu, du Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Il le veut pour vous aussi. Il dit qu'il est l'Éternel qui te guérit. C'est lui qui guérit. Il dit aussi que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jésus guérit toutes les maladies. Combien de fois c'est écrit? Combien de fois il fait cette promesse? Combien de fois Jésus l'a manifesté dans les Écritures? Combien de fois il a montré à ses apôtres, à ses disciples, de faire de même? Et il a dit que nous pouvions faire les mêmes choses. J'ai demandé à cette maman si elle croyait qu'elle était pécheresse, si elle croyait qu'elle avait déjà péché envers Dieu. Elle m'a dit oui. Je lui ai expliqué, comme j'ai pu, que Dieu voulait lui pardonner ses péchés. Je lui ai demandé si elle était d'accord que Dieu lui pardonne ses péchés. Elle m'a dit oui. Alors, j'ai imposé les mains et je lui ai dit, comme Dieu pardonne vos péchés, il vous guérit maintenant au nom de Jésus. Et je lui ai demandé de marcher. Et elle s'est mise à éclater de rire en marchant, en me faisant comprendre qu'elle avait presque plus mal. C'était les femmes hurlaient de joie, ils se levaient, ils applaudissaient. Et immédiatement, une autre femme m'a demandé de prier pour elle, parce qu'elle avait du mal à respirer. D'ailleurs, on voyait bien, elle avait comme les poumons rétrécis. J'ai prié pour elle, et tout de suite, elle allait mieux. Elle arrivait à bien respirer. Et une autre personne encore, qui avait des maux de ventre, et elle est repartie, toute joyeuse. Ils étaient contents. J'aurais recommandé plutôt que si la douleur revenait, il fallait qu'ils continuent à croire que Jésus les avait guéris. Qu'il fallait qu'ils continuent à imaginer que Dieu était avec eux, qu'il avait pardonné leurs péchés et guéri leurs maladies. Et 3 jours plus tard, la maman, elle est venue me poser, me porter elle-même un repas. Elle a fait donc cette demi-heure de marche dans la montagne et elle avait préparé un repas pour moi. Et quand je l'ai vue comme ça, elle était fière, droite. Alors je lui ai dit, je vais vous filmer pour montrer à mes amis en France que vous êtes guérie, que vous êtes bien, que vous êtes contente. Alors elle était au bout, l'école était presque finie, elle était au bout de l'école et elle a marché dignement, fière. Et je trouvais ça extraordinaire. C'est un petit village qui se trouve à 180 km de Conakry, en pleine montagne, complètement perdu. Oh, c'est pas des hautes montagnes, mais c'est des montagnes pas faciles. Les voitures peuvent pas venir. C'est toujours la volonté de Dieu de sauver et de guérir toutes les maladies. Quoi que les hommes en pensent, c'est vrai. Je l'ai encore vu, je l'ai vu des centaines de fois, et je l'ai vu même quand on n'arrive pas à communiquer proprement avec une langue, eh bien Dieu fait le reste, il accomplit des merveilles. Si vous croyez sincèrement que Jésus vous sauve et vous guérit, eh bien, cela s'accomplira. C'est la volonté écrite de Dieu. Il le veut pour vous aussi. Amen. Merci. Amen.
Magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. Quand il parlait de ça, j'avais l'impression d'être là-bas avec lui. On a vécu déjà aussi ensemble tellement de choses similaires. Et Dieu est grand, Dieu est grand. Et n'a aucune limite. Aucune limite. Ce matin, je vais vous apporter un tout petit message parce que Philippe, je lui ai demandé de prendre son temps pour expliquer. Alors, je ne vais pas être trop long, mais je pense que ce que je vais vous dire va vous aider à prendre la victoire là où peut-être vous avez toujours échoué. Alors, on va commencer par faire une lecture dans Romains chapitre 7. Ça va être une longue lecture, mais pendant cette lecture, je vais donner des explications. Romains chapitre 7, c'est donc Paul qui écrit aux chrétiens qui vivent à Rome, dans les communautés, et voilà ce qu'il leur dit. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc, elle devient la femme d'un autre, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. C'est clair. Alors il dit, et de même, parce qu'il a une idée à la tête, il veut faire comprendre quelque chose, de même, mes frères et sœurs, vous aussi avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions du fruit pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous ne portions que des fruits pour la mort. C'est-à-dire que quand on n'est pas converti, on est naturel, on est un homme naturel. Et quand la loi arrive, nous disons, il ne faut pas faire ça, si on le fait, on désobéit à la loi. Si on désobéit à la loi, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on désobéit à la loi, on meurt. Alors il continue. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand Jésus-Christ est mort, nous sommes morts avec lui sur la croix. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite, c'est-à-dire de la loi de Moïse. On vit sous un autre régime. Que dirons-nous donc? Il continue. La loi est-elle péché? Ben, certainement pas. Je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce que c'était la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». C'est clair. Alors, saisissant l'occasion offerte par le commandement, le péché, il parle du péché comme d'une personne, vous voyez, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En fait, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi et je suis mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est en train de dire, pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. C'est-à-dire que quand il était enfant de 0 à 12 ans, il était sans la loi. Parce qu'un enfant, il n'est pas tenu pour responsable devant Dieu, donc il est sans la loi. Mais à partir de 12 ans, Dieu le considère comme un être qui est capable de choisir. Donc, s'il choisit le mal, là, il en est responsable. Il dit, mais quand le commandement est venu, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans, quand il a fait sa bar mitzvah, quand il est rentré, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu, comme à 12 ans, un juif spirituellement, il est considéré comme un adulte, et quand le commandement est venu, le péché a pris vie en moi et je suis mort. Voilà, il est mort. C'est-à-dire, il était séparé d'avec Dieu. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas, au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, par la loi. Le péché m'a donné la mort par la loi. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, le péché, il montre son caractère extrêmement mauvais. Le mal, le péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Ben oui, on était vendu au péché par Adam et Ève dans le jardin, et puis voilà. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Rappelez-vous, il est en train de parler de lui quand il est sous la loi. Quand il n'était pas encore chrétien. Il dit, or si je fais ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. Dans ma nature propre, dans l'être humain que je suis, il n'y a rien de bon. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Eh, ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Hein? On est tous pareils. La volonté d'accomplir le bien. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais, au contraire, le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Tous ces chrétiens qui culpabilisent tout le temps. Ouais, ils ne culpabilisent pas. Ils disent, c'est pas moi qui fais, c'est le péché. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu facile. Non, 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 c'est pas si facile que ça. Écoutez-moi bien. Je découvre donc cette loi. Deux points. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu. Elle est bonne. Dans mon être intérieur, je prends plaisir. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, le verset 25 arrive, je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il dit, mais c'est possible de s'en sortir par Jésus-Christ. Alors après, il va expliquer toutes ces choses-là. Mais elles semblent compliquées aux chrétiens et même aux pasteurs qui donc évitent de les prêcher et laissent les gens dans une espèce d'incertitude qui les rend malheureux et il leur dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Et les gens sont culpabilisés continuellement. Je vais vous lire. Dans Matthieu 26, 41 maintenant, où il est dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Je suis au courant. Ce matin, je vais vous parler de notre volonté en relation avec les choses de Dieu. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs, d'ouvrir leur intelligence pour que cela deviennent clairs et les libèrent de toute accusation au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez réalisé l'importance de la volonté? Dans Romains 7, Paul nous dit que sa volonté était bonne, mais que souvent, ses actions contredisaient sa volonté. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il était mené par une loi qui l'obligeait à faire des choses qu'il n'aimait pas. Il prenait des résolutions. Je ne veux plus le faire, je ne veux plus le faire. Et ses intentions qu'il avait de plaire à Dieu, en fait, ça ne faisait que d'amener encore plus d'obscurité décourageante dans sa vie. C'est pas ce qui vous arrive, mes frères et sœurs. Combien de fois, quand j'étais jeune converti, ça m'a tourmenté, ça, je me disais, mais c'est pas possible. Et pourtant, la Bible dit que je suis né de nouveau, mais alors qu'est-ce qui se passe? Je suis une nouvelle créature, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors je voudrais faire le bien, mais je suis charnel, je suis vendu au péché. Il parle de ça, il parle de ça en parlant de l'époque où il ne connaissait pas encore Jésus. Parce que depuis qu'il a connu Jésus, l'apôtre Paul a su qu'il a été racheté de la même manière de vivre. Racheté! Vous comprenez? Jésus est le Rédempteur. Il a racheté l'apôtre Paul ainsi que nous-mêmes aussi. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais des voitures. J'ai eu longtemps des voitures comme ça, qui ne marchaient pas bien, qui tombaient en panne. Et je me rappelle encore, on était descendus avec toi, Philippe, et puis d'autres frères et sœurs de la communauté dans le midi de la France. Et puis on tombait en panne, il fallait pousser la bagnole. Alors on croyait qu'elle roulait, on arrêtait de pousser, puis tof, 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 elle s'arrêtait encore. Et ça, c'était terrible. Et ça m'a fait penser à pas mal de chrétiens qui persistent à avancer dans leur vie chrétienne par la force de leur volonté. Ils poussent, ils tirent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. C'est épuisant! C'est fatigant! C'est décourageant! Et il y en a même qui abandonnent la foi parce qu'ils disent j'y arrive pas, donc je suis pas un chrétien, voilà, c'est ça. Et en fait, cette façon de vivre la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle s'il faut tout le temps pousser la bagnole. C'est pas une bonne nouvelle s'il faut toujours faire des efforts pour se tenir et puis on n'y arrive pas parce que notre nature est mauvaise. Ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle, avec l'évangile. Alors, je vais vous dire une chose qui va vous choquer, mais ne retenez pas que cette phrase, il faut que vous compreniez tout le reste. La phrase que je vais vous donner qui est un peu choc, c'est « Ne vous forcez pas à être ce que vous n'êtes pas ». Voilà. Maintenant, j'explique. C'est aussi inutile que d'essayer de faire monter de l'eau dans une pente. Dans une autre traduction de Matthieu 26, 41 qu'on a lu là, c'est écrit « L'esprit est voulant, mais la chair est faible ». Paul disait aux Éphésiens « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, de sorte que les deux choses sont opposées l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas les choses que vous voudriez. » C'est quand même un peu fort. Alors, si il nous faut faire tant d'efforts dans notre vie chrétienne, eh bien, ça signifie simplement que nous ne sommes pas naturellement chrétiens. On n'est pas naturellement chrétien. Vous n'êtes pas naturellement chrétien. Je ne suis pas naturellement chrétien. C'est surnaturel. Écoutez-moi bien, pensez-y, ce n'est que pour les choses que nous ne faisons pas naturellement que nous avons besoin, que nous avons recours à notre volonté. On peut réussir pendant un temps, mais la loi du péché et de la mort aura finalement le dessus. C'est pourquoi Paul disait « Qui me délivrera ?» Mais en vérité, mes frères et sœurs, ce que nous sommes déjà, nous n'avons pas besoin de chercher à l'être. Si je désire l'être, c'est que je ne suis pas encore, ou alors que je n'ai pas compris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas compris. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, la plus simple, c'est qu'ils ne sont peut-être pas nés de nouveau, tout simplement, mais ils ont adhéré à une religion, puis voilà, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas régénérés, l'Esprit de Dieu n'est pas en eux, puis voilà. Dans ce cas, la vie nouvelle n'agit pas en eux. Mais la deuxième raison, qui est la raison la plus courante dans les milieux chrétiens, c'est qu'ils sont nés de nouveau, les gens, mais ils possèdent cette vie nouvelle, mais ils n'ont pas appris à se confier dans cette vie nouvelle. Et c'est ce manque de compréhension qui les ramène toujours à l'échec et à leur péché naturel. Et il arrive que certains se mettent à douter de la possibilité d'une vie meilleure. Et ils sont découragés. Et vous les voyez pour donner le bon mini, ils disent Amen, Alléluia, mais enfin, au fond d'eux-mêmes, il y a une tristesse, parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Et je vais vous expliquer. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que vous avez manqué de foi que la vie faible que vous expérimentez en ce moment représente tout ce que Dieu vous a donné. Simplement, vous avez manqué de foi parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Quand vous allez les comprendre, votre foi va grandir et vous allez être beaucoup plus fort face à votre nature. On va lire maintenant Romains chapitre 6, verset 23. Écoutez bien, c'est très important, c'est la suite de ce que l'apôtre Paul était en train de dire. 6, 23, il dit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout le monde dit « Amen, Alléluia, tout oui, mais ça ne veut rien dire en réalité. » Il faut lire aussi Romains 8, 1, 4 pour bien comprendre. L'apôtre Paul, Pierre, il dit, l'apôtre Paul n'est pas toujours facile à comprendre, c'est vrai. Mais il faut se donner de la peine pour chercher à comprendre, en priant, en disant, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi, au travers de ton serviteur, ou au travers de la Bible, tout simplement. Dieu a mille façons de faire pour que vous compreniez. Mais écoutez bien maintenant Romains 8, 1, 4. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Nous avons une nature propre, à nous, qui n'est pas propre d'ailleurs. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Deux lois. Car ce qui était impossible à la loi de Moïse, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Alors, ça peut paraître compliqué, je vais vous expliquer. Romains 6, 23 nous déclare que le don de Dieu, on l'a lu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Romains 8, 2, 4, qu'on vient de lire, nous apprend que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est venue à notre secours. C'est pas seulement Christ qui vit en moi, plouf, 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 et il dort dans un coin de mon estomac. Ou de mes genoux. Donc, Romains 8, 3 ne nous parle pas d'un don nouveau. Romains 8, 2, 3, tout ça, nous parle de la vie dont Romains 6, 23 nous parle, d'une vie agissante. Romains 2, c'est la révélation nouvelle de ce que nous possédons déjà. Romains 8, 2 est la révélation de la vie que nous possédons déjà. Vous n'avez pas à attendre quelque chose de nouveau, vous l'avez déjà. Mais vous avez à apprendre à découvrir que l'œuvre est déjà accomplie par Jésus-Christ. La destruction de ce péché, cloué à la croix. Il n'y a plus de condamnation parce que la condamnation est tombée sur Jésus. Mais ça ne veut pas dire maintenant que vous n'avez pas une nature mauvaise. Vous avez tous. J'ai une nature qui n'est pas bonne. Parce que j'ai des vieux plis, des vieux restes de ma vie ancienne. Vous allez me dire, mais non, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles, mes frères et sœurs. On vous raconte des bobards quand on vous dit, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est des pasteurs qui essaient de faire croire qu'ils sont parfaits. Avez-vous remarqué, le verbe, il est au passé. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré. C'est fait. De la loi du péché et de la mort. C'est fait. Dieu l'a fait il y a 2000 ans. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine de Jésus. C'est fait. Il l'a fait. C'est pourquoi il dit, il n'y a plus de condamnation pour vous. Même si vous avez une nature de péché qui n'est pas pure. Il a condamné le péché dans la nature humaine de Jésus. C'est fait. Je ne me laisse pas condamner par le diable qui essaie de m'accuser. Je ne me laisse pas juger et condamner par les gens. Et je ne me permets pas de me condamner moi-même, de m'auto-juger, de me flageller. Je ne me permets pas de faire ça. Si je fais ça, c'est la preuve que j'ai rien compris. Je mets simplement ma foi en Jésus qui l'a fait. Si nous abandonnons notre propre volonté, je veux faire ça, je veux faire le bien, je veux, Seigneur, donne-moi la foi. Et que nous nous confions simplement en lui, nous ne tomberons pas sous le coup de la loi du péché, parce que c'est la loi du péché qui nous dit, faut faire ci, faut faire ça, si tu fais pas ça, c'est pas bien, Nous ne serons pas écrasés sous une quelconque condamnation si nous abandonnons notre propre volonté dans les mains de Dieu et si nous nous confions en lui. Parce que si nous faisons cela, nous serons soumis à une autre loi, plus à la loi du péché, plus à la loi qui conduit au péché. La loi, elle vous conduit de toute façon au péché. Mais elle vous conduira, vous serez soumis à une autre loi, à la loi de l'esprit de vie. C'est autre chose. Parce que Dieu ne nous a pas seulement donné la vie, il nous a donné une loi de vie. Et de même que la loi de la pesanteur est une loi naturelle, c'est naturel. Ce n'est pas le produit d'une législation humaine, du Parlement, de Macron qui aurait décidé qu'il y aurait une loi de la pesanteur. Non, c'est une loi naturelle. Ça marche. Voilà, c'est comme ça, c'est une loi naturelle. Ainsi, la loi de vie, c'est une loi naturelle de votre nouvelle nature en Jésus-Christ qui contrôle tout. Mais ça se développe. Par exemple, ce n'est pas notre volonté qui fait battre notre cœur, c'est la loi de la vie naturelle qui fait battre notre cœur. Eh bien, tant que la vie est là, cette loi naturelle, elle agit spontanément. Puis notre cœur, il bat. Puis quand la vie s'en va, il n'y a plus, c'est fini, il ne bat plus. Vous comprenez? Et notre volonté, si bonne soit-elle, ne peut qu'entraver la loi de la vie. Parce qu'on s'efforce, on pousse la bagnole. Si vous laissez agir Christ en vous, vous serez moins conscient de l'ancienne vie qui vous menait par la loi de Moïse. Si vous laissez Christ agir en vous. Votre ancienne vie, elle existe encore. Mais elle ne dominera plus. Nous ne sommes plus sous son emprise, mais il faut le savoir. Et quand on le sait, on commence à vivre cette vie nouvelle, cette nouvelle loi de vie. Et on se met à vivre naturellement la vie de Christ. Nous nous mettons à vivre naturellement une vie surnaturelle, ce qui permet de faire des miracles, ce qui permet de faire le bien sans se forcer. Invisible.
Ah oui.
Ben voilà. Est-ce que vous vous souvenez de Jésus qui a dit « Regardez les oiseaux du ciel ».
Ah, il dit « Regardez les oiseaux du ciel ».
Pourquoi il a dit ça? Si vous pouviez parler à un de ces oiseaux, on en a plein là qui viennent, en ce moment c'est le printemps qui revient, alors ils viennent, c'est magnifique. Si vous pouviez parler à un de ces oiseaux et que vous lui demandiez s'il craint la loi de la pesanteur, et s'il pouvait vous répondre, l'oiseau il vous dirait quoi? Ben, j'ai jamais entendu parler de la loi de la pesanteur, j'ai jamais entendu parler de Newton, je ne connais pas sa loi, je vole parce que c'est la loi de ma vie. Voilà. Alors, que dire de ça? Il y a en eux, dans les oiseaux, une vie capable de voler. Et, deuxièmement, cette vie les rend capables de triompher spontanément de la loi de la pesanteur. Ils sont pas en train de se dire, voilà, il faut que vraiment, je me donne de la peine, puis je m'efforce, et puis non, ils sautent, puis ça vole. Quand votre cœur, il bat, c'est tout, même quand vous dormez. Ça ne veut pas dire que la loi de la pesanteur n'existe pas pour eux. Vous me comprenez? En hiver, à la campagne, on voit souvent des oiseaux qui tombent parce qu'ils sont gelés, ils meurent comme ça, par terre. Et tout. Mais tant que l'oiseau, il vit, il triomphe de cette loi de la pesanteur. Et tant que vous vivez de la vie de Jésus-Christ, vous triomphez de la loi du péché et de la mort. Mais encore faut-il laisser Christ agir en vous. C'est pareil pour nous comme pour les oiseaux. C'est pourquoi il dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Dieu nous a donné une nouvelle loi, la loi de vie. Alors, il n'est plus question de notre volonté, mais de sa vie en nous, qu'on laisse se manifester. « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Parce que moi, ce que je veux, je sais que de toute façon, je ne vais pas arriver à le faire. Alors. Dieu ne nous a jamais demandé de nous forcer à être ce que nous ne sommes pas naturellement. Ce n'est pas un vicieux. Laissez-vous, frères et sœurs, laissez-vous instruire par les livres des chants, Jésus dit encore. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pour attirer notre attention sur la nouvelle vie qui est en nous, qui est sa vie. Est-ce que les livres des chants font des efforts pour pousser? Est-ce que quand vous vous promenez dans les champs, vous entendez les lys qui font... Ils font des efforts, les lys des champs, non? Pour être beau, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent dans les magasins pour... Non, c'est naturellement. C'est naturellement. Je vous parlais dernièrement de Christ en vous. De laisser Jésus agir en vous, par vous. Eh bien, c'est de cela dont je vous parle ce matin. Laissez la loi de la vie, de la nouvelle vie qui est en vous. Laissez la loi de Jésus, sa vie, vivre au travers de vous. La loi de l'esprit de vie, laissez-la agir en vous, au travers de vous. Soyez dans la paix, dans la paix. Parce que cette vie-là, recommande ton sort à l'Éternel. Si tu le fais, cette vie va prendre le dessus sur la loi naturelle qui existe encore en vous. C'est sûr, ça existe encore en vous. Mais vous serez plus heureux parce que vous allez décider « Je ne fais plus ma volonté, j'essaye plus parce que j'ai tellement essayé puis je n'y arrive pas. Maintenant, je demande, Jésus, c'est toi qui fais. Agis au travers de moi. » Vous n'aurez plus besoin de la loi de Moïse que personne ne peut observer. Personne ne peut observer la loi de Moïse. C'est une loi épouvantable. Et c'est pourquoi Dieu l'a virée pour nous donner une autre loi. Vous n'aurez plus besoin de cette loi parce qu'une autre loi aura pris le dessus en vous. La loi de la vie qui est déjà en vous mais que vous ne savez pas comment faire fonctionner. C'est tout le problème. Jésus est déjà en vous. Simplement, ce qu'il faut, c'est que vous le laissiez agir au travers de vous. Que le matin, quand vous vous levez, vous lui remettez votre journée. Vous dites, Seigneur, guide-moi, conduis-moi, garde-moi, protège-moi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai vraiment besoin de ta protection, j'ai besoin de ta guérison. Je sais que tu viens en moi et tu as déjà fait tout ça. Je te remercie, je vais dans la vie calmement, paisiblement. Et vous allez voir. Ça marche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à réaliser combien c'est vrai qu'il y a deux lois. La loi de la mort et du péché. Et la loi de vie. Cette vie qui est en nous, celle de Jésus-Christ. Aide-les à comprendre ça afin de pouvoir le vivre librement. La vérité vous rendra libre. Libre de quoi ? Libre de cette loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus, que cette compréhension rentre dans chacun. Amen. Amen. Au revoir mes frères et sœurs.